Eh bien, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des rois, au chapitre 7. Un roi, chapitre 7, et là, il est question de Salomon et des constructions qu'il a faites à Jérusalem. Vous savez, la parole de Dieu est capable de nous enseigner de toutes sortes de façons, par toutes sortes d'images et par toutes sortes de moyens. On va lire ensemble, donc, un roi, chapitre 7, du verset 2 jusqu'au verset 5. Il est dit à son sujet... Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Il y avait 3 étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et à chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Amen. Voilà, il nous faut parler de cette maison de la forêt du Liban. Il y a quelque temps, nous avons parlé aussi des constructions de Salomon qui comprenaient la maison de l'Éternel en premier, et 6 autres bâtiments qui lui ont servi de palais ou d'annexe du palais par après. Parmi toutes ces constructions... La maison de la forêt du Liban était la plus grande, ce qui nous montre son importance pour le roi. Et de plus, elle a été construite en premier, verset 2 nous dit d'abord, donc avant tous les autres portiques, avant même sa propre habitation ou celle de sa femme. Et pourquoi cette maison s'appelait-elle ainsi? Bien déjà parce qu'elle a été faite pour sa plus grande part, justement, de ce bois de cèdre du Liban, que Salomon avait obtenu de la part d'Hiram, roi de Tyr. Donc, Tyr, c'est au Liban actuel. Et ensuite, parce que le nombre de ces colonnes, ces nombreuses colonnes qui constituaient la partie basse, la faisaient ressembler au tronc d'arbres pressés, nombreux, d'une épaisse forêt. Voilà, maison de la forêt du Liban. Et vous vous souvenez peut-être que nous avions parlé à ce moment-là de ces troncs de cèdre du Liban et que nous avions dit alors que qu'ils sont comme une image de ces âmes perdues qui découvrent le chemin du salut et qui le suivent pour aller au ciel. On avait vu ça en traçant plusieurs parallèles. Déjà, rappelez-vous, il fallait, au chapitre 5, au verset 6, je ne vais pas vous relire cela maintenant, mais simplement le rappeler, il fallait que ces arbres soient coupés, et de la même façon, il faut aussi, si nous voulons être sauvés, qu'il y ait une coupure. Qu'il y ait une coupure avec le mal, qu'il y ait une coupure avec le péché, une coupure avec ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ensuite, rappelez-vous, il fallait qu'ils aillent sur la mer, c'était au chapitre 5, au verset 9, et la mer, c'est une image du monde auquel nous devons voyager aussi. Nous aussi, eh bien, ma foi, Dieu veut, il ne veut pas que nous soyons à l'écart du monde, nous avons apporté un témoignage dans le monde, un témoignage à la gloire du Seigneur. Donc, eh bien, il fallait qu'ils soient expédiés en radeau, c'était aussi au chapitre 5, au verset 9. Et le radeau, c'est quelque part aussi une image pour l'assemblée des croyants qui sont liés ensemble. Les radeaux sont des troncs qui sont liés ensemble. Donc voilà. Et puis, nous avions développé un peu tout cela. Et puis, au chapitre 5, au verset 9, il fallait aussi qu'ils soient conduits, qu'ils aillent là où le roi l'indiquait. C'est-à-dire que là où c'était le plus commode, le plus pratique, pour qu'ils puissent être utilisés, enfin qu'ils puissent être préparés et utilisés dans le but qu'on avait prévu pour eux. Et ceci nous parle aussi de l'importance de la direction divine dans notre vie à chacun. Vous savez, Dieu a un plan pour nous, pour chacune de nos vies. Dieu a quelque chose de bien précis, de bien clair. Il a un chemin bien clair pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est lorsque nous cherchons cette volonté de Dieu, que nous cherchons ce plan et que nous y marchons, c'est là que nous sommes spécialement bénis par le Seigneur et que nous sommes au bénéfice de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Et puis, il a fallu aussi, ensuite, qu'ils soient déliés, c'est dit dans le chapitre 5, au verset 9 encore, et là aussi, ça nous rappelle l'importance que tout lien avec l'adversaire soit coupé. Vous savez, le diable aime bien nous lier. Le diable aime bien nous lier par, je ne sais pas moi, des pratiques occultes, comme disait Sandra tout à l'heure dans son témoignage un petit peu, liés par nos mauvaises habitudes, par nos vices, déjà même dans notre hérédité. Bien souvent, on s'aperçoit qu'on hérite de nos parents ou de nos ancêtres, des choses auxquelles on ne peut rien, mais qui malgré tout pèsent sur notre existence, pèsent sur nos vies. Et le Seigneur est celui qui veut aussi agir pour que nous puissions être délivrés de tous ces liens, pour que l'adversaire n'ait plus de droit dans nos vies. Amen. Et si je poursuis encore, eh bien, il fallait que Salomon puisse les prendre. Hein, c'est le chapitre 5, verset 9 aussi, ou les faire prendre, plus exactement. Et ça, ça nous rappelle l'importance de la disponibilité pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut de nous. Faisons confiance au Seigneur. Le meilleur pour nous, c'est que Dieu puisse faire ce qu'il veut de nous. Ce n'est pas que nous fassions ce que nous voulons le meilleur pour nous. Le meilleur, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est important. Et voilà donc, je reviens à ces troncs de cèdre du Liban. Les voici taillés, les voici coupés à la bonne longueur. Les voici disposés dans cette maison de la forêt du Liban. Et là encore, vous avez effectivement une image de l'Église, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui est le rassemblement de tous les vrais croyants convertis en Jésus-Christ. Hein ? Nous pourrons voir trois choses dans la suite de notre message et dans la suite de notre texte. Déjà, nous parlerons de ces colonnes qui sont cette fois-ci sous forme de poteaux avec leur caractère. Nous parlerons ensuite des chambres qu'elles supportent, ces colonnes, hein, qui sont au-dessus avec leur caractère. Et puis nous parlerons enfin des utilisations que nous précise la parole de Dieu de cette fameuse maison de la forêt du Liban. Donc en premier, parlons de ces colonnes, de ces poteaux, de leur caractère. Ce sont donc en premier des colonnes. Une colonne, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'assuré. On peut faire reposer un poids considérable sur une colonne avec confiance. Il nous est dit ainsi que les apôtres Pierre et Jean étaient considérés, regardés comme des colonnes de l'avancement de l'Évangile, comme des colonnes de l'œuvre de Dieu. Hein, au début, on voit cela, et puis même nous avons des écrits de leur part qui nous prouvent cela et qui sont encore pour nous de fermes appuis jusqu'à aujourd'hui. Et il nous rajoutait que l'Église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité aussi. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des assemblées. Des assemblées où la parole de Dieu est prêchée, où on s'attache à la parole de Dieu, parce que c'est par ce moyen-là, c'est ce moyen-là que Dieu a choisi pour que sa vérité puisse être prêchée, pour qu'elle puisse être tenue, maintenue, et pour qu'elle puisse être propagée et perdurée. Amen. Et puis, il nous a dit encore, il nous a rajouté, ça c'est dans l'Apocalypse, il a rajouté, « Celui qui vaincra, dit le Seigneur, le Seigneur fera de lui une colonne dans le temple de son Dieu, hein, dans le temple de gloire, dans le temple céleste. » L'Apocalypse nous dit cela. Et Dieu veut que nous puissions être des colonnes. Des colonnes, c'est-à-dire des personnes sur lesquelles Dieu puisse s'appuyer, qui ne branlent pas, qui ne s'écroulent pas à la moindre difficulté. Hein, et il veut que nous puissions être puissamment soutenus et fortifiés par son esprit pour qu'il en soit ainsi. Amen. Et puis si j'avance, je remarque que ces colonnes sont disposées sur quatre rangées, nous est-il dit dans le verset 2, et ceci peut nous parler de plusieurs façons. Tout d'abord, cela nous montre les différentes origines de ceux qui se donnent au Seigneur au point que donc qu'il peut suffit à eux comme de colonnes. Quatre rangées, ben ça nous parle par exemple des quatre points cardinaux et ça nous rappelle que le Seigneur a promis de faire venir son peuple de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute race. Amen. Hein ? Et ça, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on voit même au milieu de nous, hein, bien souvent. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, bien vous pouvez avoir une place dans une de ces fameuses quatre rangées. Donc, et vous pouvez devenir et demeurer pour l'éternité une de ces colonnes bénies dans la maison de Dieu. Amen. Et ça nous parle aussi, en même temps, des quatre manifestations de la piété pour lesquelles les quatre évangélistes ont écrit chacun. Vous savez qu'il y a quatre évangiles. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Voilà. Pourquoi y a-t-il ces quatre évangiles ? Pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, eh bien, c'est parce que chacun de ces évangélistes, dirigés par le Saint-Esprit, a parlé à une sorte de personne. Vous savez, vous avez des gens, ils sont religieux. Ils sont religieux, je veux dire, dans le bon sens du terme. J'entends là, parce que vous êtes religieux dans le mauvais sens, mais vous êtes religieux aussi dans le bon sens, parce que l'Écriture nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est de la bonne religion, ça. Hein, donc, voilà. Et c'est Matthieu, l'évangéliste Matthieu, qui écrit pour eux particulièrement. Ensuite, vous avez ceux qui ont à cœur de servir. Se servir et le Seigneur. Et leur prochain, à l'image de Christ, celui dont il nous est dit qu'il est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Hein, et l'évangéliste Marc s'est spécialement tourné vers ceux qui ont ce but dans leur vie, donc par l'écriture de son évangile. Et puis ensuite, vous avez ceux qui ont à cœur d'être, je dirais, quelque part, de rester humains. Je m'explique là. Ceux qui ont à cœur de s'occuper des hommes qui les entourent. Parce que Dieu ne nous a pas destinés, n'a pas désiré, ne veut pas que nous puissions nous détourner des perdus. Mais au contraire, si nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, nous devons d'autant plus faire preuve d'humanité vis-à-vis de nos semblables. Et le Seigneur met dans le cœur de ses enfants une profonde compassion pour les âmes et il leur donne le moyen de manifester leur affection de manière pratique. Amen. Et c'est Luc, donc, qui a écrit, il parle du Fils de l'homme, Jésus-Christ, il insiste beaucoup sur cet aspect, le côté humain, l'aspect humain de Jésus-Christ, et il a écrit pour développer aussi dans les croyants cet aspect de la foi. Enfin, vous avez l'apôtre Jean qui, lui, nous parle pour ceux qui ont des aspirations spirituelles profondes. Parce que vous savez, les meilleures choses n'ont pas de valeur si elles ne sont pas faites en Jésus-Christ et si elles ne sont pas faites pour s'approcher de lui. Et donc, c'est l'évangéliste Jean qui nous rappelle cela et qui insiste tout spécialement sur cet aspect des choses. Voilà. Donc ça, c'est déjà aussi quelque chose que ce parallèle nous rappelle. Remarquez ensuite que ces poteaux, ces colonnes sont taillées en carré. Ça nous est dit aussi et ça nous confirme dans ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut avoir l'une ou l'autre de ces tendances principales dont nous venons de parler. Les uns insistent plus sur la religion, les autres plus sur le côté service, ou le côté humain, ou le côté des aspirations particulières vis-à-vis des choses spirituelles. Mais les quatre côtés égaux de ces colonnes sont taillés en carré et nous parlent de la nécessité que nous développions chacun donc ces quatre aspects de la vérité, de la manière la plus égale, la plus équilibrée possible dans nos propres vies, voyez-vous, afin que nous soyons chacun des hommes faits, ou des hommes faits dans le sens humain, qui sont faits, qui sont achevés, et que l'édifice de Christ puisse s'élever harmonieusement en lui. Amen. Et puis vous remarquez encore que ces colonnes de cèdre étaient reliées les unes aux autres à leur sommet par des poutres de cèdre, ça nous est dit aussi dans ce verset 2, reliées donc avec celles qui étaient devant elles, avec celles qui étaient derrière, bon évidemment sauf celles qui étaient tout à fait devant et celles qui étaient tout à fait derrière, mais en tout cas reliées malgré tout avec celles d'un côté, celles de l'autre, et même je dirais si les colonnes étaient d'une autre rangée, si elles étaient plus en vue, bien nous voyons que ces poutres de cèdre les liaient solidement les unes aux autres. Et ainsi en est-il de chaque croyant fidèle, même si les autres frères et sœurs dans la foi sont différents, et ils sont différents, même s'ils occupent des positions différentes, les uns plus en vue, les autres moins. La réalité, le lien de la communion fraternelle en Jésus-Christ est indispensable à tous. Amen. Nous avons besoin de cela et c'est quelque chose qui est, dirais-je, au sommet de la colonne, c'est-à-dire au point le plus élevé. Et c'est pour ça qu'il est parlé de l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. C'est ça le lien puissant que nous avons par le Saint-Esprit du Seigneur. Amen. Et puis tout ceci, nous avons notre deuxième point, deuxième partie. Voici les chambres, voici leur caractère. Vous pouvez remarquer qu'il y a trois étages au-dessus de ces fameuses colonnes, avec à chaque étage des chambres, on voit ça dans le verset 4. Et ces trois étages de chambres, ils nous parlent aussi des trois parties de notre être, corps, âme et esprit. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. L'Écriture nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Ça peut se comprendre de plusieurs façons. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous avons un corps, nous avons une âme et un esprit. Alors il y a encore d'autres aspects trinitaires qui sont plus intéressants autant en Dieu qu'en nous. Mais malgré tout, quand nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est par notre corps, notre âme et notre esprit que nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est par notre être entier. Amen. Et vous pouvez voir que ces chambres devaient être éclairées à chaque étage. C'est dans le verset 4 aussi. Et ça nous montre que la lumière divine, la lumière de Christ, elle doit pénétrer les trois parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Les trois sont nécessaires. On ne peut pas négliger. Il ne faut pas dire, moi, ce qui compte, c'est le spirituel, tout le reste ne compte pas. Ce n'est pas vrai, ça. Ça, c'est un déséquilibre. Le spirituel a sa place primordiale, bien sûr, absolument nécessaire, mais nous avons un corps aussi, et ce corps, si nous sommes privés de corps, ça veut dire que nous ne sommes plus là, ça veut dire que nous sommes morts, hein, c'est ça que ça veut dire. Tant que nous avons un corps, eh bien ce corps, nous devons le considérer, le respecter, bien le traiter, hein, parce que le corps, c'est l'instrument privilégié et admirable que Dieu nous donne pour accomplir son œuvre dans la réalité, dans les actes et dans les faits. Vous voyez, le corps a toute sa place, et l'âme aussi a toute sa place. Hein. Donc, et il est important que, autant dans notre corps que dans notre âme, c'est-à-dire le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions, le siège de tout ce qui nous permet de tourner autour d'une vie de fonctionnement et de relation avec les autres. Hein. Notre âme aussi a besoin d'être éclairée. Et notre esprit, ce qui nous permet d'entrer en communication avec Dieu. Hein, ou avec les choses spirituelles. Voilà. Donc, et puis, il nous a dit encore, vous voyez bien, au verset 4, que les fenêtres des chambres se trouvaient vis-à-vis les unes des autres. Ça veut dire que d'une fenêtre, eh bien, on pouvait voir au travers de la fenêtre d'en face, et que cette lumière qui éclaire l'une éclairait aussi l'autre. Vous savez, il est marqué que la véritable lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et tout spécialement, bien sûr, elle nous éclaire les uns les autres en Christ. Et ça nous parle de la transparence, ça nous parle de la sincérité qu'il y a entre les croyants. Ça nous parle de la qualité d'affection fraternelle particulière qu'il y a entre ceux qui sont des colonnes dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque certains sont les colonnes dans l'œuvre de Dieu, alors il y a véritablement une relation rare, introuvable dans le monde, plus forte même, plus étroite même que la relation qu'il peut y avoir entre les membres d'une même famille qui peut bien s'entendre hein, sur cette terre. Et ça veut dire qu'on peut vraiment alors demeurer dans la joie de cette communion du Seigneur. Amen. Et voyez combien c'est important pour le Seigneur, puisqu'il en parle deux fois. Hein, c'est dit dans le verset 4 et à la fin du verset 5. Et ça nous rappelle que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Christ. Amen. Amen. Remarquez enfin que ces chambres étaient couvertes de cèdre, nous est-il dit au verset 3. Et nous avons déjà pu démontrer il y a quelque temps, justement, dans notre précédente méditation sur ce sujet, que le cèdre, c'était l'image d'une vie chrétienne consacrée, hein, spécialement lorsqu'il est taillé comme il l'est, lorsqu'il est formé. Et là, on voit qu'il n'y a pas seulement un étage qui en est recouvert, ni deux, mais les trois. Et ça nous montre, là encore, qu'une vie consacrée à Dieu, ça revêt les trois. Ça revêt l'esprit, l'âme et le corps, hein, l'être tout entier, suivant ce qui est dit, par exemple, dans l'Épître aux Thessaloniciens, la première, au chapitre 5, au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis arrivons-en enfin maintenant aux utilisations de la maison du Liban. Alors, à quoi servait ce bâtiment imposant ? À quoi servait toute cette multitude de chambres ? Alors, nous savons que Salomon a été un homme très riche. Je ne vais pas vous lire le passage de 1 Roi, chapitre 10, versets 14 à 21, parce que je dois encore qu'on puisse avoir un moment de prière après. Mais en tout cas, il nous est démontré, là, qu'il avait des richesses considérables et que cette fameuse maison du Liban a servi à entreposer ses richesses. Vous savez, un chrétien qui est attaché au Seigneur, il est riche aussi. Il a des richesses extraordinaires. Hein, des richesses peut-être pas sur son compte en banque, mais en tout cas, il est riche en la foi. Alors ça c'est quelque chose de précieux, je vous assure. Quand une difficulté arrive, par exemple, et que vous avez la foi, ça fait une drôle de différence avec ceux qui ne l'ont pas, je peux vous le dire, hein, dans bien des situations. Hein. Ça, je pourrais donner des tas de... C'est une richesse, la foi, hein, une grande richesse. Il est riche en bonnes œuvres aussi. Hein. Alors, 1 Timothée 6, verset 18, alors, la foi, je donne la référence, riche en foi, c'est Jacques, chapitre 2, verset 5. Hein. Ensuite, riche en bonnes œuvres, 1 Timothée 6, verset 18. Lorsque quelqu'un est attaché au Seigneur, eh bien, il accomplit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'il les pratique. Amen. À ce moment-là, il peut accomplir les meilleures des œuvres aux yeux de Dieu. Et puis, bien sûr, il faudrait s'étendre à chaque fois sur un de ces points, mais nous sommes infiniment riches en grâce. Alléluia. Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Le Seigneur use abondamment de grâce envers nous. Heureusement pour nous, hein ? Heureusement pour nous. Et ça nous permet, nous aussi, d'utiliser abondamment de grâce envers les autres. Hein ? ça aussi. Hein, quand on a le Seigneur, vous savez, quand on a le Seigneur, on peut faire grâce aux autres. Hein, pourquoi? Bien parce que déjà le Seigneur, on voit qu'il nous fait grâce, et puis on voit qu'après, bien écoutez, on n'est pas obligé de défendre notre petit bout de gras. Hein, on sait que le Seigneur est capable de pourvoir et de nous secourir en toutes choses. Hein. Et même s'il y en a certains qui nous font subir des fois des injustices, eh bien on peut encore leur faire grâce avec le secours de Dieu. Amen. Hein. Et puis ensuite, nous sommes riches en gloire aussi. Éphésiens 3, verset 10. Alors bon, ça ne se voit pas encore forcément maintenant, mais ne vous faites pas de soucis. Hein. Le Seigneur prépare un lieu de gloire. Il l'a dit. Hein. Il a dit que lorsqu'il s'en allait, il a dit, je reviendrai vous chercher. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez également dans ce lieu. Amen, amen. Hein, ça, c'est glorieux. Et puis, nous sommes riches en la parole de Dieu. Quelle richesse dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Hein, quelle richesse. Lorsque vous lisez la parole, ben, vous avez les promesses de Dieu qui sont là. Ça vous soutient dans la prière. Ça vous fortifie dans la prière jusqu'à ce que vous ayez remporté la victoire, par exemple. Ça vous assure de la protection divine. Ça vous donne aussi la sagesse pour vous conduire dans l'existence, parce qu'on a bien besoin, hein, c'est vrai, hein, chacun, chacune d'entre nous. Que de richesse dans la parole de Dieu. Et tant d'autres sur lesquels je passe, on pourrait parler de la richesse des promesses de Dieu, de ceux qui sont riches en espérance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais nous, ce que nous voyons, alors j'en reviens maintenant à ces fameuses richesses, c'est qu'avant d'être entreposées dans cette maison du Liban, elles avaient subi une transformation. Elles étaient devenues quelque chose d'utile en même temps, parce que dans le passage que je vous ai cité tout à l'heure sans vous le lire, il nous a expliqué que Salomon avait fait fabriquer des grands boucliers en or battu. Hein, ces grands boucliers, et puis vous avez des plus petits boucliers aussi, il y avait deux sortes de boucliers, hein, 1 Roi chapitre 10, versets 16 et 17. Donc, ça veut dire que eh bien, ces richesses avaient été transformées là, ou du moins cette partie de ces richesses a été transformée en moyen de combat, en moyen de défense, oui c'était ça, donc elles gardaient leur valeur, mais tout en ayant un autre usage, une utilité en même temps. Hein. Et ça, ça nous parle du bouclier de la foi dont il est parlé dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, il a dit le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous frères et sœurs. Amen. Hein, ça, c'est glorieux et c'est précieux. Et vous aviez deux sortes de boucliers. Vous aviez le grand bouclier qui pesait une dizaine de kilos, hein, en or surtout, et derrière lequel ben, on se cachait. C'était un bouclier défensif, un bouclier de protection qui permettait de couvrir tout le corps lorsqu'on se cachait derrière lui. Et justement, lorsque l'ennemi lançait ses nuées de flèches, hein, en début de combat surtout, eh bien, ça permettait de s'en protéger. Et puis après, vous aviez le bouclier d'attaque qui était plus petit, hein, plus léger aussi, et qui servait à monter à l'assaut. Et vous remarquez d'ailleurs dans le passage que Salomon a fabriqué plus de ses boucliers d'attaque que de ses boucliers de défense. Donc ça nous parle. Ça nous rappelle que le Seigneur aussi nous a préparé une protection. Une protection certaine. Dans la maison de la forêt du Liban, dans l'œuvre de Dieu, eh bien, le Seigneur a tout prévu pour que nous soyons protégés, pour que nous soyons gardés. Alors, vous savez, il ne faut pas être, présomptueux. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'il faut être prêt à faire n'importe quoi et à prendre n'importe quel risque inconsidéré. Hein. Si c'est notre Seigneur donne un bouclier, ce n'est pas pour que nous fassions là les héros de bande dessinée ou je ne sais pas de quoi, hein, en disant, voilà, moi, rien ne peut m'atteindre. Non, s'il donne un bouclier, c'est pour qu'on se mette derrière. Voilà, c'est pour qu'on se garde avec. Hein. Mais si on le fait, alors le Seigneur est là pour nous garder. Amen. Amen. Et puis la maison de la forêt du Liban, elle servait encore à entreposer aussi les richesses qui étaient transportées en moyen d'invitation, de nourriture. Il y avait une vaisselle qui était là, tout un ensemble de services qui était là, de services de vaisselle. 1 Roi 10, verset 21. La vaisselle du roi, donc, par laquelle il honorait ses invités. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Et ça nous parle d'invitation. Et nous aussi, bien aussi, le Seigneur veut que nous puissions être de ceux qui invitent. De ceux qui invitent. Ben, il y a les gens, ils ont besoin d'être invités. Il y a les gens, ils ont besoin de pouvoir bénéficier véritablement de tout ce que notre roi de gloire veut nous accorder. Amen. Hein, dans ce cas-là, et on voit aussi cela, le Seigneur nous a confié aussi des richesses, des bénédictions. Si vous avez déjà commencé à être bénis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est pour que vous puissiez aussi les communiquer à d'autres et que d'autres aussi puissent être au bénéfice de ces choses, parce que nous avons un Seigneur qui est rempli de libéralité et de compassion. Béni soit son nom. Amen. Alors, frères et sœurs, eh bien, Dieu nous appelle à être des colonnes. Hein, je ne m'insiste pas plus. En conclusion maintenant, rappelons-nous sur l'importance que les trois étages de notre vie soient consacrés au Seigneur, hein, que le Seigneur puisse avoir son regard dans tous les domaines. Et rappelons-nous aussi que si Dieu nous donne des richesses, c'est aussi pour qu'elles puissent être utiles, hein, qu'elles puissent être utiles, des moyens de bénédiction également pour d'autres. Et le Seigneur est vraiment celui qui veut nous éclairer de cette lumière divine, celui qui veut nous fortifier par sa communion fraternelle. Et c'est vrai qu'il veut bénir et exaucer en accompagnant tout cela. Béni soit son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton immense bonté et merci parce que tu es celui qui écoute encore les prières de tes enfants maintenant. Nous avons cette confiance, tu vois, ces divers sujets de prière qui ont été présentés et nous croyons que tu agis encore pour chacun d'eux. Nous te rendons grâce Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Béni sois-tu Seigneur pour la manière dont tu écoutes les prières avec beaucoup de grâce, beaucoup de patience Seigneur, avec véritablement un accueil précieux et puissant, Jésus, et c'est pour cela que nous sommes encore dans la confiance et dans la paix, Seigneur, en sachant que tu es véritablement notre Père céleste et que tu t'occupes de la meilleure façon des tiens et que tu fais ton œuvre encore dans les vies. Sois glorifié, mon Seigneur. Amen, Jésus. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle plusieurs choses. La prédication d'évangélisation et d'édification, c'est toujours en ligne, donc c'est bon pour le vendredi soir, encore sur notre site. L'évangélisation dans les villages le samedi, donc rendez-vous ici à 14h30 pour ceux qui veulent y participer. Donc ça se continue, ce travail de distribution dans les boîtes aux lettres pour l'instant. Les cultes sont dimanche matin, le premier à 8h30, le deuxième à 10h45. Par contre là, merci de vous inscrire d'avance pour y participer. Soit par téléphone, soit sur le site aussi. Et puis, nous envisageons une distribution de traités à Chalon, donc aussi la semaine prochaine. Donc, on pourra s'inscrire également avec les nouveaux traités. Donc, on va refaire un travail à ce niveau-là. Et les baptêmes sont prévus pour le mercredi 28 au soir. Donc, priez pour ces bien-aimés qui ont à cœur de prendre ce baptême. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.